Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auxquels s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi inverser les calculs récursifs et comment bien inverser, se demandait l'informaticien Gérard Berry dans les années 1970. Combien y avait-il d'ordinateurs dans la recherche au moment du plan calcul? Quel rôle ont pu jouer Pierre Boulez et l'IRCAM dans le développement de la science informatique? Comment est né le langage de programmation STRL? D'où vient la passion d'enseigner de Gérard Berry? Nous voici au terme de la série « Où va l'informatique ?» et de l'enseignement de Gérard Berry au Collège de France. Il nous propose aujourd'hui une libre leçon de clôture où il revient sur son riche et joyeux parcours de chercheur-enseignant des années 1970 à 2019. Ancien élève de l'École Polytechnique, ingénieur général du Corps des Mines, Gérard Berry a été chercheur à l'École des Mines de Paris et à l'INRIA de 1970 à 2000. Directeur scientifique de la société STRL Technologies de 2001 à 2009, nous découvrirons d'ailleurs aussi ce matin cet aspect de son parcours, puis directeur scientifique INRIA, donc à l'Institut National de Recherche dédié aux sciences du numérique, et président de la commission d'évaluation de cet institut de 2009 à 2012. Gérard Berry a tenu la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France de 2012 à 2019, après y avoir été titulaire de deux chaires annuelles en 2007 et en 2009. Je rappelle que sa contribution scientifique concerne quatre sujets principaux: le traitement formel des langages de programmation et leur relation avec la logique mathématique, la programmation parallèle et temps réel, la conception assistée par ordinateur de circuits intégrés et la vérification formelle des programmes et circuits. Et enfin, il est créateur du langage programmation STRL. Dans son discours lors de la remise de la médaille d'or du CNRS en 2014, Gérard Berry revenait sur les particularités de son parcours et de son domaine, et je le cite. « Ma carrière s'est inscrite dans le cadre collectif de la recherche française en informatique, qui est de très haut niveau et très reconnue internationalement. J'ai collaboré avec des chercheurs et des industriels remarquables. À la fin du XXe siècle, l'informatique a réalisé une percée fulgurante due au progrès exponentiel de l'électronique, bien sûr, mais aussi au fait que la science informatique est une science de construction qui ne rencontre pas les obstacles des sciences naturelles dont les objets d'étude ne dépendent pas de nous. Mathématique dans sa théorie, mais avec un système de pensée qui lui est propre, l'informatique implémente sans délai ses découvertes dans les systèmes artificiels qu'elle construit. Un bon exemple est celui des premiers moteurs de recherche, développés en quelques mois, immédiatement mis en service et qui ont changé le monde. Dans le cadre de la série de cette semaine, l'informaticien a rappelé la difficulté de la science informatique à se faire une place dans la recherche et surtout dans l'enseignement. Dans ce même discours, Gérard Berry notait « J'ai longtemps vu les scientifiques classiques considérer l'informatique comme un outil précieux, mais pas comme une science à part entière. » La matière et l'énergie ont effectivement dominé les siècles précédents, l'information reste en vue comme une question secondaire. Mais les choses changent. De plus en plus de scientifiques comprennent que l'informatique est en train de bouleverser profondément leur propre discipline et même leur façon de penser. La simulation sur ordinateur est utilisée partout. Elle devient fondamentale pour la compréhension profonde des phénomènes et pas seulement pour leur imitation. Les algorithmes deviennent aussi importants que les équations pour comprendre les lois de la nature. De plus en plus de biologistes voient la cellule comme une machine à information, le code génétique fournissant le programme de la vie et la biochimie, la machine de calcul. Je cite une dernière fois le discours de Gérard Berry au CNRS en 2014 où il explique que les vraies clés sont dans le fondamental. Le succès de nos travaux, dit-il, est d'abord dû au suivi opiniâtre de fils conducteurs sécrétés par des questions fondamentales, celles qui se définissent simplement, donnent du travail pour des dizaines d'années et dont la solution conduit à des impacts imprévisibles au départ. Pour juger de la qualité de nos résultats et réalisations, j'ai toujours cherché l'avis d'interlocuteurs variés, chercheurs, ingénieurs et même compositeurs de musique. La confrontation des points de vue rend toujours scientifiquement plus modeste. Cette approche collective, interdisciplinaire, par des chemins de traverse, sans oublier un savoureux esprit Shadok cher à notre informaticien pataphysicien revendiqué, revient tout au long de cette leçon de clôture donnée avec un certain esprit de liberté cher à l'ADN du Collège de France. Cette liberté est toujours inséparable du caractère imprévisible et d'ailleurs Gérard Berry le souligne, je tiens à dire qu'aucune de nos avancées décisives n'était réellement programmable et que seule la recherche d'air frais et d'autres points de vue dans d'autres disciplines a été soigneusement organisée. Alors vive toutes les fenêtres qu'on ouvre et vive l'air frais! Nous gagnons le Collège de France le 26 février 2019 pour la leçon de clôture de Gérard Berry intitulée « Plaidoyer pour les trajectoires non linéaires ».
Bonjour à tous et bienvenue à cette leçon de clôture que je vais essayer de rendre un peu électrique pour qu'elle ne soit pas ennuyeuse. Et donc, il va clore tout mon enseignement au Collège de France. Et je lui ai donné un sous-titre qui était « Plaidoyer pour les trajectoires non linéaires ». Les chemins de traverse, hein, trajectoire non linéaire, c'est très, très mathématique, mais ça se dit chemin de traverse chez les hommes normaux. Et donc, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai fait dans ces cours, parce que, en gros, vous le savez, vous les avez tous vus. Et alors, donc, je vais faire quelque chose d'assez différent, c'est pourquoi j'ai été amené à faire ces cours et quelle a été ma trajectoire avec pas mal de gens, dont pas mal sont dans la salle, et une trajectoire qui n'est justement pas très linéaire, et je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'en science, il ne faut pas suivre les autoroutes. Les autoroutes, c'est facile à suivre, mais ce n'est pas forcément ça qui mène dans les petits villages intéressants. Alors, j'avais commencé en 2007 par la chaire innovation technologique Liliane Bettencourt. Je me rappellerai toujours, j'avais reçu un coup de téléphone le matin à Palo Alto et j'avais reçu un coup de téléphone de Pierre-Louis Lyons me disant « Est-ce que ça t'intéresserait de faire une année de cours au Collège de France ?» Alors, j'avais déjà eu une idée que ça devait être un truc intéressant, mais je ne pensais pas du tout que c'était possible. Et donc, ça s'est fait et j'ai fait un cours tout à fait général pour des gens normaux, c'est-à-dire la population standard, un petit peu éduquée, mais pas un cours super scientifique. Pourquoi ? C'était le premier cours d'informatique, c'était l'introduction de l'informatique au collège. Alors, j'étais habillé exactement comme ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis réhabillé comme ça, sauf pour la cravate. J'ai remplacé une cravate à rayures par une cravate Shadok, d'un modèle assez rare, et vous allez voir que vous allez entendre parler de Shadok dans cette leçon inaugurale. Les Shadok ont toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Donc, ensuite, deuxième chaire, je suis rappelé par l'Assemblée des professeurs pour faire une deuxième chaîne avec pensée modélisée et maîtriser le calcul informatique. Et donc, ça s'est très bien passé, mais là, c'était plus technique. Et puis ensuite, le rappel encore en 2012, avec deux années de cours sur le temps, deux années de cours sur la vérification des programmes, quelque chose qui m'a toujours intéressé, passionné, parce que je pense que programmer, c'est facile, programmer juste, c'est super dur. Et une année sympathique, donc, pour écrire un livre qui s'appelle « L'hyperpuissance de l'informatique », que vous avez tous lu, et une année de cours sur STL, qui a été le gros de ma recherche pendant très longtemps, et puis cette année sur OUVA l'informatique. Donc voilà, ça a été tout ça, et je voudrais clore par autre chose, justement. Et pourquoi les Shadok ? Parce que pour moi, les Shadok, c'est le symbole des professeurs au Collège de France. Je dis des choses tellement intelligentes que le plus souvent, je ne comprends pas ce que je dis. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les maisons comme ici. J'aime beaucoup les Shadok parce que ça décale l'esprit. Il n'y a pas que les Shadok. J'ai fait un cours entier cette année à Bordeaux sur des phrases de Yogi Berra. Yogi Berra qui était un grand joueur de baseball et un grand créateur d'aphorismes. Le titre, c'était « En théorie, la théorie et la pratique, c'est pareil, mais en pratique, c'est pas vrai ». Ce qui a fait une leçon, je pense, très intéressante, mais qu'on pourrait reprendre dans des tas d'autres sciences. Alors, comment est-ce que ça a commencé, tout ça ? En 1967, j'étais là, sur la colline, là, à l'école polypique-nique, comme disait mon fils, et j'avais un ordinateur vraiment bizarre, français, complètement baroque, un SETI PB250, ça s'oublie très bien. Et j'avais appris l'informatique, j'avais appris à programmer, j'avais trouvé ça rigolo, mais pénible, un peu dur. Et alors, je suis arrivé aux mines, au corps des mines précisément, et Pierre Lafitte, qui était à l'époque le sous-directeur de l'école, m'a dit « Mais viens faire de la recherche aux mines, c'est passionnant et tout, puis viens faire de l'informatique, ça a beaucoup d'avenir. » Et moi, j'avais mes copains en biologie, et je les voyais, qui mettaient des années à faire une expérience sur quoi que ce soit, tandis qu'en informatique, on s'y mettait, et crac, on arrivait à faire quelque chose. Donc ça me plaisait beaucoup. Et le premier projet qu'on a fait, c'était un projet alors qui n'avait aucune chance d'aboutir, mais qui m'a appris pas mal. C'était sur un IBM 360 à distance en assembleur. Il fallait attendre des dumps échelons, comme ça, c'était infernal. Mais il y avait un truc bien, c'était le nom. C'était TIFF, traitement et interrogation de fichiers. Et donc, on faisait un compilateur. Alors, je ne me rappelle pas tous les détails, mais je vous donne l'esprit. On avait un programme TIFF qui rentrait dans le premier programme du compilateur qui s'appelle Apéritif, et ensuite qui passait dans Coupe TIFF, dans Sportif, pour terminer dans Digestif. Donc, ça, je trouvais ça très intéressant. Ce compilateur a disparu corps et bien. Je ne sais même pas s'il a vraiment existé, mais j'en ai déduit quelque chose qui allait me poursuivre tout le temps. C'est en essentiel, il est vraiment très important de bien nommer ses objets. Et TIFF, c'était parfaitement choisi comme nom, ça m'a appris beaucoup de choses. Bon, alors là, il ne s'est rien passé, mais heureusement, dans la rue, j'avais rencontré deux personnes que je connaissais de Polypique-Nique, qui étaient Philippe Flageolet et Jean-Marc Steyert, et qui m'ont dit, ben écoute, pourquoi tu viens pas à Jussieu avec nous faire un DEA avec Maurice Niva, on se marre bien, et puis on est à l'IRIA. Ils avaient été embauchés à l'IRIA juste parce qu'ils avaient envie à l'époque, hein, c'était pas tout à fait comme maintenant. Et donc, j'ai été travailler avec eux et discuter, puis on s'est retrouvés, non, avant de se retrouver avec les copains, premier congrès où on m'emmène, Algol 68. Alors là, j'ai vu que la science était quand même un peu baroque. Algol 68, un langage de programmation infernal, très gonflé, mais il n'y a rien qui marchait vraiment dedans, c'était beaucoup trop gonflé à l'époque, on ne savait pas faire ce qu'on sait faire maintenant. Et il y avait une réunion, et alors je sentais bien que le but, c'était pas du tout de faire Algol 68 bien, c'était de savoir qui mettrait son nom sur le bouquin. Bon, et les gens discutaient, puis il y avait un type très fort, qui est malheureusement décédé pas longtemps après, Hans Bekic, qui avait produit une liste de 80 problèmes très importants dans le langage. Je vous les raconte pas, mais c'était des trucs majeurs. Et puis alors, bon, ça intéressait personne, et puis il a dit, quand même, faut analyser ces problèmes. Et bon, et le président, von Weingarten, a dit, ben écoutez, on va lire les choses pendant 2 heures, puis après, on va voter. Bon, alors, c'était un peu bizarre, donc tout le monde a lu ça n'importe comment. Et après, ils ont voté, et Bekic a dit, mais ces votes étaient complètement aléatoires. Et là, j'ai apprécié quand même un truc qui m'a beaucoup appris, parce que Niva, qui était là aussi, a dit, ah, c'est pas vrai, j'ai fait la parité dans tous les cas. Ce qui était quand même très habile. Donc moi, je me suis dit, si c'est ça la science, on va changer de métier. Alors par contre, en 1971, Dana Scott, un très grand logicien, prix Turing, présente D'Infini, un des modèles les plus importants de l'histoire de l'informatique, et j'étais là quand il le présentait avec des superbes notes manuscrites, et j'ai bossé là-dessus pendant très très longtemps. Et puis, en 1972, j'avais un voyage d'études aux USA. On m'avait prêté des skis à Alta. C'était Patrick Baudelaire que connaissent certains qui m'avait prêté ses skis. Il était beaucoup plus grand que moi. Les skis étaient super longs. Je me suis bien tordu un genou. J'avais pas du tout les moyens d'aller chez le médecin. Je suis allé clopin-clopant à Palo Alto. Et là, j'avais un numéro de téléphone que j'ai appelé. J'avais même pas le nom de la personne qui m'a dit, écoute, il y a un bureau libre dans mon bureau avec un terminal. J'avais jamais entendu parler du mot terminal. Hein. Et tu pourrais travailler avec moi. C'était une recommandation de Niva. Et c'était Robin Milner, un des plus grands informaticiens de l'histoire. Et j'ai donc travaillé pendant 15 jours avec Robin Milner sur les premiers systèmes de preuve de programme. Et ça, c'était fantastique. Et j'en ai déduit quelque chose de très, très important. C'est une devise qui m'a toujours suivi après. C'est « on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol ». Et je pense que cette devise est extrêmement fondamentale, mais ça s'organise. Alors, 72-77, eh ben on était à l'IRIA, et là, il y avait une bande de joyeux lurons. C'était vraiment des joyeux lurons, il y en avait pas mal dans cette salle. Il y avait Schuttenberger qui avait créé un peu tout ça, avec Niva et Cadieux, et puis il y avait Courcel à Bordeaux, avec qui j'ai écrit des choses. Gilles Kahn, Jean-Jacques Lévy, j'ai fait ma thèse avec Jean-Jacques Lévy. Jean Vuillemin qui est ici, qui a parlé en séminaire. Jean-Raymond Abrial qui a parlé en séminaire. Jean-Marie Hulot qui est là. Bertrand Serlet qui est pas là. Et il y avait que deux sujets à l'époque en informatique, c'était simple, c'était algorithme et complexité, ou alors programmation et sémantique. Hein. Soit on faisait des algorithmes, soit on faisait des programmes. Ça s'est un peu compliqué par la suite, mais enfin, ça reste quand même pas faux. Et puis, il y a eu vraiment deux phases que je vais vous raconter un petit peu, mais je vais pas vous raconter ce qu'elles font, mais plutôt pourquoi c'était sympa. L'inversion des programmes récursifs, et puis le lambda calcul et la séquentialité. Alors, les programmes récursifs, c'est une histoire rigolote. On apprend toujours aux gens à programmer avec Fibonacci. Fibonacci, c'est si 0 ou 1, ça fait 1, sinon on additionne les deux précédents. Bon, mais ça, c'est complètement idiot, comme définition. Ça servait à mesurer la vitesse des processeurs. Fibonacci de 20, fallait une minute. Ça, je me rappelle. Maintenant, je crois que c'est pas mesurable. Parce qu'on n'arrête pas de recalculer la même chose tout le temps. Vous voyez, on va développer Fibonacci, on a 3 plus 2, ça va nous faire 2 fois 2. Donc on va refaire des calculs tout le temps. Et ça coûte très très cher. Et pour tout ça, pour trouver 5. Hein. Mais monsieur Fibonacci, Leonardo da Pisa, lui, il n'avait pas du tout cette idée-là parce qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un appel récursif. Ça s'est arrivé bien après. Lui, il disait, je prends 1, 1, je les ajoute, ça fait 2. Je prends le 1 et le 2, je les ajoute, ça fait 3. 3 et 2, ça fait 5. 5 et 3, 8. 8 et 5, 13, etc. Vous continuez tant que vous voulez. Et avec votre appel récursif, je vous salue bien. Et oui, mais alors, ça, c'est très agréable à écrire. Et c'est très agréable pour montrer des propriétés. Et ça, c'est plus facile à faire. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre automatiquement? C'était le sujet. Et alors ça, sur Fibonacci, c'est évident, mais il y avait une fonction qui s'appelle Ackermann, qui est une fonction qui coûte extraordinairement cher. Si vous voulez une fonction qui coûte cher, celle-là est très très bien. Bon, en fait, ça calcule une fonction de n avec m récurrence emboîtée. Mais bon, et donc, j'avais démontré un théorème, l'algorithme de Rice est optimal en temps et mémoire par rapport au graphe de dépendance, bon bref, un machin technique. Mais il y avait quelque chose de caché là-dedans. Quand est-ce qu'on peut faire ça, inverser le calcul? C'est quand il a une propriété de déterminisme suffisante. Alors, quand est-ce qu'on n'est pas déterministe, le ou parallèle POR? Moi, j'appelle POR, pas POR. On l'appelle POR. Moi, j'aime bien l'appeler POR. Parce que c'est un POR. Et ce qu'il dit, c'est que c'est un ou tout bête, c'est le ou classique. Bottom, ça veut dire je calcule même pas. Ou ça boucle, ou n'importe. Si vous avez deux faux, ça fait faux. Si vous avez un des deux qui est vrai, ça fait vrai. Et sinon, ça, vous savez pas. Cette fonction-là est très très logique, elle existe dans les sémantiques classiques, chez Scott, mais on peut démontrer, et c'est pas du tout facile, qu'on peut pas la programmer en ML ou en C ou en n'importe quoi, on peut pas la programmer dans un langage normal. Donc, si on évite cette fonction, qu'est-ce que ça veut dire éviter cette fonction? Eh ben, il y a une condition technique qui s'appelle les fonctions stables, donc pourquoi stable? Je me rappelle même plus qui m'avait suggéré ce mot. Pour éviter POR, il y a beaucoup plus simple comme mot, mais je vous laisse le trouver. Mais il y avait une fonction très bizarre, qui s'appelle maintenant la fonction de Gustave, qui n'est pas POR, elle ressemble un peu, mais pas vraiment. C'est-à-dire, elle est déterministe, mais elle n'est pas séquentielle. Il n'y a pas de moyen de la calculer en sachant par où commencer. C'est pas grave, ça. Ce qui se passe, c'est pourquoi elle s'appelle la fonction de Gustave. Et ça, c'est grâce, si je puis dire, à Gérard Huet, qui est ici, et qui, voilà, on est au bâtiment 8, il y avait plein de Gérard. Et donc, Philippe Lagelet avait décidé de nous changer de nom. Et moi, il avait décidé de me nommer Gustave. Et donc, lui a fait des notes de cours à Carnegie Mellon, qui sont restées très connues, dans lesquelles il citait la fonction de Gustave, avec une petite footnote disant où elle se trouvait. Mais ensuite, lui a été cité, et tout le monde a cité la fonction de Gustave, mais l'origine a disparu. Et donc, on avait entre nous un petit pari de voir si quelqu'un s'en apercevrait un jour. Eh bien, oui, 41 ans après... Un étudiant de Jan Willem-Klopp à Amsterdam m'a écrit en disant « C'est bizarre, j'ai trouvé la fonction de Gustave dans un de vos vieux papiers. » Et en fait, voilà. Alors, c'était assez normal parce que ça, c'était Gustave à l'époque. Et donc, il n'y a pas beaucoup de photos de Gustave à l'époque. Et effectivement, les gens n'avaient pas de raison de faire une relation quelconque entre ma pomme et Gustave. Alors, on s'amusait bien, hein, je peux dire, c'était assez extraordinaire. Alors, après, ma thèse... Ça s'appelait « Modèle complètement adéquat et stable du lambda calcul typé ». Alors j'avais un copain médecin qui m'a dit « C'est génial, pris séparément, on comprend tous les mots ». Donc j'en ai retenu que le titre était quand même pas mal choisi, mais voilà. Alors c'était un problème très important qui est toujours plus ou moins résolu, je pense. Moi je suis pas très d'accord avec ce qu'on appelle la solution. Quelle fonction peut-on calculer avec un langage de programmation normal? Eh ben, c'est pas un truc qu'on comprend. C'est un problème qui a été très, très dur et qu'on comprend pas très bien. Mais voilà. Ma thèse, c'était, on peut construire un modèle stable avec mes fonctions, plus fin que le modèle de Scott, mais il résout pas le problème à cause encore de ce foutu Gustave. Alors, Jean-Yves Girard, qui est un très grand logicien, a retrouvé ce modèle plus ou moins indépendamment et, il a construit un modèle de Koch, si on veut. Il faut aller voir Xavier Leroy dans ses cours pour comprendre maintenant. Alors, voilà ma thèse. Alors ma thèse, c'était du coupé-coller, mais alors à grande échelle, mais c'était des bouts de papier. Oui, je vous dirai après, on n'avait pas d'ordinateur en France, on n'avait pas le droit d'avoir des ordinateurs dans la recherche en informatique. Et donc la thèse, c'est ça, mais là on voit plus l'épaisseur des couches de papier superposées, recollées et tout. Et quand j'ai essayé de la déposer à Jussieu, on m'a dit « vous n'avez pas le droit de déposer une thèse manuscrite ». Ce qui me paraissait pas vrai. C'était une semaine de la deadline. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il dit, ah, vous vous débrouillez. Donc je suis allé à Liria, j'ai pris la tête de Jean-Jacques Lévy, je l'ai mise dans mes couvertures, je l'ai donnée à Jussieu. Ils ont été très contents. Après, j'ai changé avec la mienne manuscrite, ils étaient toujours aussi contents. Comme quoi, il ne faut pas se laisser embêter par l'administration stupide. Alors, on était en 77, puis moi je commençais à en avoir marre de Paris, et Lafitte me dit, pourquoi tu n'irais pas à Sofia Antipolis, là où le ciel est plus bleu, pour créer un labo ? Alors l'idée de créer un labo, ça me plaisait. L'idée de créer un labo au soleil, ça me plaisait. Et je savais qu'il y avait l'aéroport de Nice. Et donc je savais que les gens viendraient voir. C'est ce qui s'est passé. Alors effectivement, ça a démarré assez fort avec une école d'automne, dont tout le monde qui y était se souvient. Mais je ne voulais pas y aller seul, donc je cherchais un thésard. Et je vais voir un jour, on m'a dit, si tu as un candidat à 9h du matin, on te donne une bourse. Il était 4h de l'après-midi. Bon, je téléphone à Niva qui me dit, ah ben il y a un mec qui s'appelle Pierre-Louis Curien, là, à 45 rue d'Ulm. Je fonce chez lui, je mets un truc sur sa porte. Le soir, à 11h, il me téléphone. C'est vrai, tout ça. Il me téléphone et il me dit, Sofia Antipolis, est-ce que c'est près du Lachins ? Alors, je lui dis, le Lachins, c'est quoi ? Il me dit, ben, c'est une montagne avec deux grosses antennes dessus. Je lui dis, oui, c'est ça. Bon, ben, je viens. Et pourquoi ? Parce que lui, c'était un grand fan de Deltaplane, et que là, c'était un grand site de Deltaplane. Et Pierre-Louis était très fort, et on a fait des choses assez formidables. Mais à peu près tous les gens, on les a rencontrés comme ça, faut savoir. Hein. C'était pas du tout la même époque. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a transformé les fonctions en algorithmes. Alors, ça changeait pas mal de choses. C'était des dualités catégories très, très belles, pour celles qui connaissent ces catégories. Mais voilà, mais il fallait abandonner le dogme classique, l'onda calcul, c'était les fonctions. Non, les catégories, c'est beaucoup plus général que les fonctions, il fallait. Et donc, moi, j'ai produit un papier qui disait, voilà, la définition des modèles de l'onda calcul, c'est avec des catégories. Pas de bol. Et ça, c'est un truc que j'ai pas du tout apprécié et qui m'a vraiment gêné après. J'ai pas apprécié, pas, moi, je m'en foutais, mais c'est au niveau science. Trois papiers de gens connus, différents, apparaissent et disent « il faut nécessairement que les modèles soient faits avec des fonctions ». Les trois groupes d'auteurs travaillent et montrent que leurs papiers sont tous équivalents et différents du mien. Donc je perds 3-1. Pas de bol, c'est la bonne définition celle-là. Ah oui, c'est comme ça. Donc de temps en temps, on peut perdre sur le nombre en science, ben, faut s'y faire. Hein, mais après, bon, au bout d'un moment, ça a été compris. C'était pas des abrutis en plus, hein, les gens du tout. Alors, faut savoir aussi qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, grâce au plan calcul. Donc, le plan calcul avait interdit l'usage des ordinateurs à la recherche, ou du moins des ordinateurs qui pouvaient servir à faire de la recherche. Et donc, nous, on a vu arriver, par exemple, un Iris 80 à l'INRIA. J'ai pas le temps de vous raconter l'histoire. L'INRIA, à l'époque, qui s'est fait saler. Dès qu'ils ont remis la clim en marche à l'installation de la machine, elle était entièrement remplie de sel, et il a fallu un an pour la dessaler. L'Iris 80 de l'école des mines a été noyé. Il était sur un camion en plein hiver. Quand il est rentré dans la salle machine, il s'est retrouvé plein d'eau. Donc ça, c'était les machines. Sauf l'IRCAM. Et il y a des gens dans cette salle qui se souviennent de l'IRCAM où Pierre Boulez avait exigé du président de la République qu'un PDP-10, qui était la machine de référence, sinon il ne faisait pas l'IRCAM. Bon, et donc il y a plein de gens qui ont travaillé à l'IRCAM et l'école LIS française a été faite à l'IRCAM. Puis après, il y a Michel Combarnous, Océanas, qui a tordu le bras du plan calcul et qui nous a fait avoir un VAX pour toute la recherche française. Un VAX, c'est une machine toute petite pour toute la recherche française. Mais ça nous a bien aidé. Et surtout, quelque chose que j'ai pu retrouver après, quasiment, enfin si, mais pas dans le même contexte, c'était complètement géré par les chercheurs. C'était les chercheurs qui décidaient comment on employait les budgets. Et ça marchait super bien. On travaillait dans deux de ces groupements de recherche coordonnés. Et puis maintenant, ben, il y a une loi de Moore pour les circuits, puis il y a une loi de l'administration qui est que le nombre de pages à remplir par les chercheurs double à peu près tous les 2 ans et que le temps passé aussi. Donc ça, je pense que c'est pas terrible pour la recherche. Alors, ça, c'était une période complètement joyeuse parce qu'on avait fait un langage CDS, Concrete Data Structures, qu'on avait surnommé le langage des années 90. Je vous ai dit que je tenais beaucoup au nommage. Ça, on était dans les années début 80. Et alors, comment est-ce qu'on faisait pour le développer ? Ben, on avait des terminaux, vous voyez ces trucs bizarres, 2480 là, des HP 2621, ça s'appelle, resté très célèbre. On en avait pas mal dans l'étage, et j'étais avec un étudiant, je vais vous le présenter, mais on avait aussi des chaises roulantes. Donc sur les 2 chaises roulantes, le soir, la nuit de préférence, parce que c'est là qu'il y avait personne, sur les machines, il y avait ma pomme d'un côté et Mathieu Devin de l'autre, qui est devenu un grand de chez Google et maintenant Waymo, qui était un type formidable. Et donc le jeu, c'était de faire du multitâche C'est-à-dire qu'on utilisait chacun 5-6 écrans et on se déplaçait à fond la caisse en chaise à roulettes en se rasant le plus possible mais sans jamais se toucher. C'était ça la loi. Eh bien, on arrive à faire de l'informatique sérieuse comme ça. Puis en plus, ça met de la bonne humeur. Le langage n'a eu aucun succès, mais le siècle était très bien choisi parce que le siècle n'était pas précisé. Et donc, je pense qu'il a encore ses chances pour l'avenir. Après, bon, j'ai participé à un projet tout à fait merveilleux avec Jean-Marie Hulot, qui est ici, qui a fait un séminaire dans le cours de Didier Roux sur son histoire chez Apple. Bon, Jean-Marie a juste fait la machine Next, Mac OS X et l'interface du Mac et l'interface de l'iPhone. Après, vous vous étonnerez que j'arrête pas de dire que l'interface et l'interaction machine, c'est complètement central et souvent mal fait et que c'est absolument central. Jean-Marie avait fait une thèse de maths, mais a trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de faire tech et l'interface machine. Et Bertrand était un jeune chercheur brillant de Jean Guillemin, mais qui est parti avec Jean-Marie et qui n'est jamais revenu faire sa thèse. 82, autre route de traverse, la naissance d'Esterel. Moi, j'en avais un peu ras-le-bol de la théorie du lambda calcul. On avait un peu fini nos idées, quoi. Et puis, il y a des copains qui faisaient une voiture de course, là, sur un circuit qui devait être autonome, aller le plus vite possible. La voiture était démente, elle avait des freins à disque, un accélérateur de feu. C'était absolument magnifique. Et elle a été évidemment battue par une voiture de stupide de jeunes lycéens à vitesse constante, le nez par terre, alors que l'autre a coupé des virages et tout. Mais elle n'était pas bonne en ligne droite. Ça, c'est un peu bête. Mais on s'était dit, il y a vraiment un problème, cette machine, les algorithmes d'automatique sont fantastiques, mais les programmer, c'est super dur. Et aucun langage de l'époque ne permettait de faire ça. Alors moi, j'ai toujours aimé les langages. Et donc, c'est là qu'on a développé Esterel. C'est là aussi qu'à la même époque, David Harel avait inventé un formalisme qui s'appelle State Charts, qui était un des papiers les plus cités de l'histoire de l'informatique, ça, qui était très important, un peu brouillon, mais vraiment très important. Harel est un type très très fort. Harel faisait des cours aux soldats israéliens à la radio à 6h du mat. Hein, et ses cours sont célèbres. Hein. Et bon, c'était très complémentaire de ce qu'on faisait nous. Après, on a plus ou moins unifié. Mais il m'a surtout raconté une histoire qui m'a beaucoup plu, parce que pour moi, c'était quelque chose qui a presque inspiré mon bouquin. La thèse de mon bouquin, c'est que l'informatique, c'est pas du tout la même chose que la physique. Il n'y a aucun rapport entre la matière et l'information. Et effectivement, Harel, qui travaillait avec les pilotes du futur avion de chasse israélien, il y avait dans son bureau un de ses copains qui faisait les programmes de vol de l'avion. Et puis, il y avait une troisième personne qui était la personne chargée du poids. Dans un avion, il y a quelqu'un de sacré, c'est celui qui allège l'avion. Parce que l'avion, c'est toujours trop lourd. Et donc, cette personne du poids venait voir le programmeur et lui disait « Combien pèse votre programme ?» Et lui disait « Il pèse rien !» Il dit « Ouais, mais d'accord, mais ils me disent tout ça. L'essence, ça pèse rien. Les ailes, ça pèse rien. Mais quand on fait le total, ça pèse trop. Alors, combien il fait votre programme ?» Écoutez, je vous dis « Ça pèse rien. » Non, mais voilà, c'est d'ici que je vous crois. Puis un jour, l'homme du poids voit descendre le mec du programme avec un paquet de cartes. Il lui dit « Donnez-moi ce paquet de cartes que je le pèse. » Et l'autre lui a fait cette bonne raison. Mais vous savez, la seule chose qu'il faut peser, c'est les trous. Parce que dans l'avion, il n'y a que les trous. C'est parfaitement juste, mais ce n'est pas du tout évident et ce n'est pas encore très compris par pas mal de gens. Alors après, on a fait une longue aventure qui a commencé avec Laurent Cossera, qui est dans la salle, qui a fait le premier compilateur. Après, on en a fait un ici sur une machine qui s'appelait la SM90, qui était une petite douleur, avec Philippe Couronnet, mais Dassault Aviation s'est intéressé très vite, et puis ils avaient des vrais problèmes super durs. Dans la recherche, on a beaucoup de mal à trouver des problèmes super durs. Et donc, moi, j'aimais bien les problèmes super durs, et eux, ils avaient des problèmes vraiment durs. Le Dino a fait un exposé ici. Et ensuite, il y a Georges Gontier, qui est un des très grands informaticiens actuels, qui a fait énormément d'autres choses après, dont les preuves formelles de très grands théorèmes sur ordinateur, qui a pu révolutionner tout ça, et on a tout de suite fait de la preuve. C'est-à-dire, on commençait à faire des preuves de programmes sur des vrais programmes, à peu près dans les années, fin des années 80. Bon, ça a été industrialisé, mais un peu mollement. Et puis après, Jean Guillemin m'a appelé et m'a dit, mais ce que tu fais, c'est pour faire du logiciel, mais ce serait beaucoup mieux de faire des circuits avec. Circuits électroniques. Moi, j'ai dit, mais les circuits électroniques, ça n'a rien à voir avec le logiciel. En fait, si. En fait, après, on a fait de la musique. Par exemple, en Tescofo, dont il a été parlé ici par Archia Comte et Philippe Manoury, et il a parlé dans son cours, ça utilise exactement le même langage. C'est-à-dire, on s'est aperçu que les principes d'Esterel, qui sont des principes très généraux, s'appliquent aussi bien au logiciel, au circuit et à la musique. Ah, moi, je trouve ça cool. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'informaticien Gérard Berry, sa leçon de clôture, plaidoyer pour les trajectoires non linéaires.
Et donc, on a eu l'idée de complètement changer la façon de voir le langage et de construire le compilateur totalement autrement pour aller vers des circuits. Et alors ça, c'est rigolo, encore un chemin de traverse. Il se trouve que Lyons nous avait emmené en Inde faire une coopération et que l'Inde, on est tombé amoureux de l'Inde à peu près instantanément. Et depuis, moi, j'y ai fait peut-être 23 ou 24 voyages. Et j'avais des problèmes, j'arrivais pas à comprendre comment les choses s'engrenaient les unes avec les autres. Jusqu'à ce que je lise un peu plus fort la mythologie indienne dans les bandes dessinées indiennes qui sont tout à fait extraordinaires et que je tombe sur la solution qu'il me fallait. Le fil Go, ça s'appelait Brahma, c'est le créateur, celui qui crée le monde. Le fil Resume, ça s'appelle Vishnu, le préservateur qui fait continuer les choses. Et le fil qui tue les programmes, ça s'appelle Kin Shiva. Et toute la sémantique des CRL, c'est vraiment l'interaction permanente entre Brahma, Vishnu et Shiva. Et donc, si j'avais pas lu ces BD, je pense qu'on n'aurait pas trouvé l'idée, simplement. Ou qu'on aurait ramé, on l'aurait mal faite, et c'est devenu très limpide. Donc je pense qu'il faut toujours ouvrir les fenêtres et toujours regarder ailleurs. Alors, il y a un truc intéressant aussi sur la sociologie de la science. Le papier Berry-Gontier de 1993, qui n'a jamais été référié, les référés n'ont jamais répondu. Oui, il est assez copieux, ce papier, et assez technique, mais les référés n'ont jamais répondu. Mais, ravissait-il, l'éditeur avait décidé de le publier. Bon, il a cité à peu près 2400 fois. C'est mon papier le plus cité. Alors, Esterel avait un gros problème de causalité. Et alors, il n'y a pas que les Shadocks dans la vie. Il y a aussi Philippe Gueluc, qui est un type extraordinaire au niveau de la logique. Et voilà le problème de causalité d'Esterel. Il est expliqué là. Vous avez un plan de Neuilly avec un panneau. Vous êtes ici. Et lui dit, les nouvelles vont vite. Ce qui est quand même absolument grandiose. Mais c'est exactement ça le problème qu'on avait. Et il fallait qu'on trouve comment le corriger et arriver à une chose où on peut construire. Parce que ça, il n'y a pas de base à ce raisonnement-là. Et la base vient encore de Philippe Gueluc, si on regarde bien. C'est le type qui a inventé l'écriture, il a inventé la lecture immédiatement après. Ce qui est aussi extrêmement intéressant comme phrase. Et c'est vrai, mais alors SRL, c'est un tout petit peu plus malin que ça. C'est immédiatement après, mais en même temps. C'est ça qui fait la différence entre SRL et les autres langages. Alors, ben, on a commencé à résoudre ce problème avec Tom Scheipel aux États-Unis, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis, le problème a été vraiment résolu en 2012 par Michael Mendler, qui est dans la salle. Et puis, à l'époque, j'ai commencé à travailler avec les boîtes américaines, parce que les boîtes françaises en circuit, il n'y en avait pas des masses, avec Synopsis et Cadence, qui faisaient de la CO circuit. C'était des ennemis intégraux, mais on bossait avec les deux, c'était rigolo. Et puis, avec Intel, surtout, avec Mikey Chinevsky, qui est aussi un très joyeux luron et un des types les plus forts que j'ai jamais vu dans ma carrière. Et on a défini un langage qui s'appelle SRL V7, qui est très très puissant, qu'on a développé à SRL Technologies. Alors quand j'étais dans la recherche, voilà comment on était financé. 3 grants, $70,000, $50,000, $30,000. Et ces grants arrivaient sous la forme d'un chèque à découper en bas d'une page, comme les remboursements des assurances à l'époque. Et c'était bien, on déchirait ces chèques, on enlevait les chèques et on les portait à l'INRIA qui disait « mais je peux pas les encaisser, il n'y a pas de facture ». Mais on savait se débrouiller quand même. Ça, c'était formidable parce que, vous voyez, c'était « no strings attached », ça veut dire quoi? Ça veut dire « on fait confiance aux chercheurs ». Ça, c'est une chose qui a très largement disparu. Faire confiance aux chercheurs, c'est plus comme ça que ça se passe pour les financements. On fait confiance et après, si c'est pas bon, là, on râle. Mais avant, on râle pas. On commence pas par râler avant que le boulot soit fait. Parce que après, moi, j'ai toujours refusé ce qu'on fait de façon courante, qui est de dire dans un projet ce qu'on a déjà fait. J'ai toujours refusé ça. Alors, on a inventé des tas d'autres trucs. En théorie des automates, on avait fait des choses qui sont d'ailleurs reliées à SRL. On a montré que le mot non déterministe était parfaitement stupide parce que les automates non déterministes sont les meilleurs automates déterministes qu'on connaisse. Il suffit de les mettre en électricité. Mais c'est autre chose. Et on a inventé donc un autre truc. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais on l'a vraiment perfectionné. Ça m'a appris une autre chose qui s'appelle le crible de Darwin. Donc c'est pour les calculer nombres premiers. Vous prenez les nombres, vous les mettez dans un bain, vous appelez ça des molécules, comme en chimie, et vous dites que quand un nombre rencontre un de ces multiples, il le mange. C'est très simple, donc c'est assez facile à expliquer même à un petit enfant, d'accord ? C'est un combat sauvage entre les nombres, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez de chacun, et la définition d'un nombre premier, c'est un survivant. Donc c'est beaucoup plus simple que le crible d'Eratosthène, par exemple. Et donc c'était Banâtre et le Métayer à Rennes qui avaient inventé ça, mais ils n'ont pas poussé très loin, et avec Gérard Boudol, qui était un des très bons collègues de Sophia, on a poussé ça, on a fait un modèle mathématique beaucoup plus riche, avec des membranes, avec qui est maintenant un modèle de la biologie d'ailleurs, hein, qui est utilisé en biologie. Walter Fontana, l'année prochaine, nous en parlera ici. Et ça s'appelle le Chemical Abstract Machine, ou CHAM, ce qui nous avait donné le prix du meilleur titre à Popple 1990, le prix officieux. Tout le monde rigolait de ce papier au début. Maintenant, bon, c'est un standard, c'est absolument standard. Il y a la BioCHAM en biologie et des choses comme ça. C'est assez intéressant parce que le papier a été rejeté par les deux référis et publié quand même par l'éditeur. Et il a été rejeté parce que les gens disaient « Mais comment vous pouvez dire que c'est mieux que ce que fait Milner parce que Milner, c'est Dieu ?» Premier référé, je leur ai dit « Moi, j'ai montré ça à Milner et il a dit « J'y avais pensé, mais j'ai pas osé », ce qui est exact. » Deuxième, comment vous pouvez dire que c'est mieux que Plotkin parce que ce que fait Plotkin, c'est Dieu ? Et dans votre papier, il n'y a que des définitions, il n'y a même pas de théorème. Alors voilà, j'ai répondu, Plotkin, quand je lui ai montré ça, il était vraiment content. Et en plus, dans son bouquin, il n'y a même pas une seule définition, dans son bouquin de référence, ce qui est vrai. Bon, alors donc, les référis, on n'a pas trop de chance avec, mais ce n'est pas très grave. Alors, il y a aussi une autre chose qui m'a appris, c'est qu'il y a pas mal de gens, que je citerai pas, mais je peux vous les citer dans les questions, qui m'ont dit, mais en fait, moi, j'ai déjà fait la même chose, exactement la même chose. Avant, mais alors dans des formalismes de réécriture catégorique, dans des formalismes, machin, truc. Ah oui, d'abord, en pataphysique, quand quelqu'un a fait quelque chose avant vous, ça s'appelle un plagiat par anticipation. Ça, c'est une notion scientifique absolument fondamentale. Et le problème, c'est que l'important, c'est pas de trouver quelque chose, c'est de s'apercevoir qu'on a inventé quelque chose. C'est-à-dire qu'ils avaient fabriqué ça, mais ils ne s'étaient absolument pas aperçus que c'était intéressant. Et ça, c'est vraiment peut-être le déclic de la science, il est là. Ce n'est pas seulement de trouver les choses, c'est de s'apercevoir, la vache, ça va donner. C'est vraiment ça. Ça va donner, c'est le mot exact. Alors, effectivement, il y a quand même un truc, il faut prendre des chemins de traverse, mais il faut quand même aller assez vite. Hein. Les Shaddocks ont un proverbe très célèbre, quand on ne sait pas où on va, il faut y aller, mais le plus vite possible. D'accord ? Ça, c'est quand même aussi une phrase extrêmement riche de sens. Puis il faut essayer beaucoup, donc les Shaddocks ont cette phrase, en essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus ça a de chances que ça marche. Il faut se rappeler que c'était à l'époque où les Européens rataient strictement tous leurs lancements de fusées, ce qui a expiré, je pense, la fusée Shaddock qui faisait à peu près pareil. Je vous rappelle qu'elle avait une chance sur 1 million de partir et que les Shaddocks se dépêchaient de finir les 999 premiers essais. Alors, STL Technologies, donc il y a des gens qui étaient là, dans la salle, le jour où ça s'est passé. Éric Bantegny, notre PDG, réunit le staff. Alors, on était déjà 60, 70 peut-être, dès le départ, parce que ça venait d'autre chose. Donc, il y avait les ventes, ici, dans la salle. Il y avait le marketing, pas dans la salle, le consulting, la R&D, les RH, les finances, ma pomme, etc. Et Éric nous pose... qui est un fin, qui est un malin, nous pose une question très intéressante. Ils nous disent, chers amis, de quoi allons-nous mourir et quand ? C'était notre première réunion. Mourir, il parlait de la société. Hein. Alors là, tout le monde s'est regardé en disant, qu'est-ce que c'est que cette question à la con ? Et en fait, il nous a dit, vous faites une rédaction de 10h à midi, on a fait nos rédactions, et après on s'est lu nos rédactions, et c'était impressionnant. Il n'y a absolument pas deux personnes qui disaient la même chose. Et c'est la première fois qu'on comprenait vraiment comment pensaient les autres et pourquoi fallait penser tout ça en même temps, ce qui s'appelle le boulot du PDG. Hein, et je pense que ça nous a servi beaucoup, beaucoup. C'était très impressionnant, ce test. Réponses toutes différentes, très intéressantes, complètement complémentaires. Et on comprenait bien que si un des rouages marchait pas, la société marcherait pas. Alors, c'est arrivé un peu. Alors, mais après, on apprend d'autres trucs quand on est dans l'industrie. Là, c'est totalement passionnant. Réunion client. Alors nous, voilà le client, donc un client, il est en marron, il est derrière un terminal, et nous, on arrive avec nos lampes à idées, et voilà, le client pose la première question. Quel est votre positionnement, quelle est votre proposition de valeur ? Alors là, quand on est chercheur, on cherche son dico, Et puis, on essaye de répondre. Alors, on répond, blabla, vous allez mettre plus de temps à concevoir, mais moins de temps à vérifier. Votre time to market sera meilleur, parce qu'on a quand même regardé quelques mots. Et c'est bien meilleur que VHDL, parce que c'est mathématique. Il y a moins de bugs. Bon. L'autre, il dit, bon, mais d'accord, mais votre produit, il est cher. Alors, quel est mon ROI et comment est-ce que vous quantifiez mon ROI? Bon, alors là, c'est on fait chouk-chouk. Heureusement, il y a toujours un vendeur avec, hein. Qui dit ROI, c'est Return on Investment, hein, ça coûtait la peau des fesses, qu'on faisait, ce qui est normal, parce qu'on arrivait difficilement à payer les gens avec. Bon, alors on rentre chez soi, hein, on révise un peu, on se fait briefer, on revient à la réunion d'après et on dit quelle est votre part de marché, est-ce que vous êtes solide, donc là vous balbutiez, on a des actionnaires très très soigneux comme Intel, célèbre et tout, on est solide, on grandit très vite, enfin bon, tout le baratin normal. Et ensuite, comment est-ce que vous formez les gens et comment est-ce que vous êtes fait vos maintenances? Alors vous dites, on a des consultants, des projets pilotes. D'accord. Et après, faut le faire tout ça, hein, parce que quand on a dit qu'on faisait ça, faut le faire. Et puis, comment est-ce que je vais pouvoir trouver des ingénieurs qui sont au courant, qui connaissent ça? Alors on dit, on a des accords avec toutes les universités mondiales pour enseigner ça gratoche, etc. Ce qui était vrai. Mais voilà. Puis après, can you summarize your value proposition? Quelle est votre proposition de valeur? Alors, à décoder, c'est pas compliqué, mais ça prend un peu l'entraînement. C'est très simple. Ce qu'il dit, c'est en quoi pouvez-vous m'aider à résoudre mes problèmes? Et là, il y a trois phases importantes dans cette phrase. En quoi, au fait, pas du baratin, pouvez-vous m'aider, ça doit être votre seul objectif, si vous voulez me demander un truc, à résoudre mes problèmes et pas les vôtres? Ça, c'est le plus dur pour un chercheur, parce qu'un chercheur, en général, il a envie de se faire résoudre ses problèmes, de fric en particulier. Hein. Alors, une fois qu'on a capté ça, ça commence à aller mieux. Mais tant qu'on n'a pas capté, on n'a aucune chance. Ça, pour les gens qui font des start-up, il y en a dans la salle, je pense qu'ils sont déjà au courant, ou alors qu'ils sont déjà finis. Voilà, donc il faut construire de la confiance. C'est très lourd, mais je trouve, pour moi, c'était un travail tout à fait extraordinaire de faire ça. C'était très dur, ce qu'on faisait. L'équipe était très forte, et c'était vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on faisait dans la recherche. Techniquement, scientifiquement, c'était beaucoup plus dur, parce que simplement, il y avait des clients très exigeants, et le hardware, c'est pas un milieu de dodo, hein. C'est du sérieux. Contact avec la recherche, en revanche, alors c'est plus compliqué. Moi, j'étais ancien chercheur, donc maintenant, en marron derrière mon terminal, et le chercheur arrivait, il me disait, j'ai des idées intéressantes pour toi. Je disais, mais je comprends pas très bien pourquoi ça m'intéresserait, il me demande même pas ce qui m'intéresse. Ça, c'est un classique aussi, hein. C'est pas tout à fait vrai. Olivier Tardieu a fait une thèse absolument merveilleuse sur Esterel, a complètement changé ma vision de pas mal de morceaux et m'oblige à réécrire le bouquin de référence. Alors, ce qui s'est passé, c'est quand même qu'on a eu un petit ennui. C'est que le jour de notre réunion client de 2008, je ne sais plus si c'était en juillet ou en septembre, les expos des clients disaient « ça marche génialement, on va passer à la taille au-dessus, c'est super » et tout. Et moi, le matin, j'avais appris une mauvaise nouvelle. Pourquoi? C'était juste après la chute de Lehman Brothers. Et ce que j'avais appris, c'est que nos clients étaient morts. Eh oui, ils ne savaient pas encore eux. Mais je savais que TI allait fermer le matin, c'était notre plus gros client. Et donc, nos clients ne savaient pas encore, mais nous on savait qu'il y avait toutes les chances qu'ils soient morts. Et sans clients, une boîte, ça va mort aussi. Enfin, la partie de notre boîte sur les circuits, il y avait deux parties, j'en parlerai après. Et voilà, donc très mauvaise nouvelle. Heureusement, il y avait d'autres gens qui avaient travaillé en parallèle avec nous, des amis. Nicolas Alvax, qui est le petit-fils de Maurice Alvax, que j'ai invité à parler dans l'amphithéâtre de son grand-père, où je donnais mes cours, et qui a quelqu'un de merveilleux. Paul Caspi, qui est un grand automaticien malheureusement décédé. Et ils avaient fait Lustre, qui était un langage différent d'Esterel, très perpendiculaire, qui avait été industrialisé sous le nom de Scade, et qui était simplement utilisé pour faire les Airbus. La 380 était faite pratiquement entièrement en Scade. Même technologie, même forme de pensée, etc. Mais style assez différent. Donc, nous, on faisait le Rafale et eux, l'Airbus. Donc, j'avais dit qu'il faut départager les deux. Donc, moi, ça me paraît assez simple. Hein. Il y avait une méthode assez facile pour faire ça. Mais bon, ils n'ont pas voulu. Et en fait, après, ce qu'on a fait chez Esterel, c'est qu'on a en fait unifié les langages. Esterel V7 dont j'ai parlé, Scade 6, la nouvelle version, qui est maintenant leader mondial de l'avionique certifiée et solide, ça a été fait comme ça, en unifiant au lieu de faire un combat. Et Bruno Pagano en a parlé ici en 2013. Le Collège de France, c'est aussi de l'enseignement. Donc l'enseignement, pour moi, c'est une vieille passion. Et j'avais beaucoup enseigné en école Montessori. Et alors, en école Montessori, les enfants sont, depuis l'âge de 2 ans, ils sont habitués à être des petits chercheurs, en fait. Et ça marche très bien. Donc, moi, j'enseignais la logique. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de la météo, j'ai fait bon. Mais la logique, c'était vraiment chouette. Donc, comment est-ce qu'on enseigne la logique aux gamins? Alors d'abord, en logique, il y a un truc bien, c'est les paradoxes. Les paradoxes, c'est chouette parce que ça pose des questions non triviales. Et en plus, c'est drôle. Donc, la logique Shadok, par exemple, c'est tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Alors, est-ce que vous pensez que cette phrase est vraie ou fausse? Ah, ou pas évidente? Pas clair, hein? Eh bien, figurez-vous que moi, j'étais en train de penser que cette phrase était fausse, et un jour, il y a une gamine de 9 ans, c'était un cours aux 6-9 ans, qui me dit, c'est pas vrai, il n'y a pas de problème s'il n'y a qu'un seul chat et qu'il s'appelle Socrate. Et ça, c'est grande classe. La théorie du modèle minimal de la phrase, à 9 ans, c'est quand même pas mal, hein? Donc, alors là, les autres enfants, ça les intéresse tout de suite. Alors après, on peut leur demander, par exemple, comment est-ce qu'on reconnaît un chat d'une chatte à 3 mètres? Alors, je sais pas si vous savez faire ça. Alors, il y a un truc très très bien qui montre que les filles s'intéressent effectivement aux sciences du vivant. C'est qu'elles me disaient toutes, si elle a 3 couleurs, c'est une chatte. Parce que les chats peuvent pas avoir 3 couleurs. Alors, c'est pas vrai, il y a 1%, parce qu'il y a des fuites de chromosomes X, mais enfin, c'est XX, hein. Faut être XX pour avoir 3 couleurs. Alors, je disais, non. On l'appelle, s'il vient, c'est un chat, si elle vient, c'est une chatte. C'est ça, la réponse. Donc ça les déstabilise, surtout que c'est l'âge de raison. Hein. 6-9 ans, c'est l'âge où j'ai raison, ça s'appelle. Hein. Ils n'aiment pas du tout ce genre de truc. Alors on les laisse mariner un peu, ils regardent avec un air mauvais, et il suffit d'attendre un peu, il y en a toujours un qui dit, et s'il vient pas? Et la réponse, c'est un chat. D'accord? Et là, on disparaît pour une semaine, et après, on peut rentrer vraiment dans du beurre pour expliquer de la logique, parce qu'ils ont appris où étaient les problèmes. Donc voilà. Alors, bon, alors c'est pas tout ça, mais il y a d'autres actions à faire dans la vie que simplement d'enseigner ou quand on est au collège, eh ben, on est extrêmement sollicité. Et moi, je faisais entre 25 et 40 conférences par an à l'extérieur, ce qui est vraiment énorme. Ça a réduit mes capacités de recherche, mais bon, d'un autre côté, comme c'était la première fois qu'il y avait de l'informatique, à peu près moitié scientifique, donc des problèmes, par exemple, sur le temps aux physiciens, un peu de philo, et beaucoup, beaucoup de grand public. Le grand public est vraiment friand de comprendre ce qui se passe dans le monde et il ne trouve pas la réponse. J'ai enseigné ça cette année. Ce n'est pas en lisant les journaux que vous allez comprendre quoi que ce soit en informatique. Il n'y a rien marqué dedans. Hein. C'est vraiment... Dans les autres sciences, vous allez comprendre pas mal de physique parce que c'est toujours la même chose qui est marquée dedans. Donc ça, au moins, vous finirez par le comprendre. Mais en informatique, il n'y a rien. Et donc, aussi, les émissions de radio, ça, je pense, c'est très important. Et on a en France la chance d'avoir des radios qui sont très bien, avec des émissions scientifiques qui sont vraiment grande classe, comme France Culture, bien sûr, avec les conversations scientifiques, la méthode scientifique, les aventuriers, La Tête au Carré, évidemment, qui est extrêmement écoutée. Ces émissions sont très écoutées en France, et ça, c'est vraiment super, et on a une heure, et en une heure, on peut raconter des choses en vrai, quoi. On n'est pas forcé de raconter des bobards sensationnels. Hein, on n'est pas forcé de dire que sa technologie va révolutionner le monde dans les 3 ans, comme on l'entend tout le temps. Bon, les conseils scientifiques aussi, c'est important, etc. Mais moi, je pense que l'implication des chercheurs en informatique, parce que c'est pas forcément vrai dans les autres disciplines, c'est pas vrai en physique, est trop faible dans les organes de décision et dans les médias. Elle est vraiment trop faible. C'est-à-dire qu'on se plaint de pas être connu, mais on y est pour quelque chose. Et il faut vraiment aller là où ce qu'il faut. Et alors, je reprendrai, pour moi, c'est la Java des bombes atomiques qui dit tout, hein. Donc la loi de Boris Vian, qui s'applique très très bien à tout ça, c'est l'important, c'est pas le rayon d'action, c'est l'endroit où elle tombe. Hein, donc c'est pas la peine d'aller faire des tas de discours à des gens qui n'ont strictement aucune raison de s'en servir. C'est beaucoup plus important d'aller voir les gens qui sont en train de prendre des décisions à un moment donné. Par exemple, cette année, on a été faire des programmes d'informatique au CSP. Ces programmes ont certes été contestés par d'autres informaticiens, ce qui est tout à fait normal. Mais c'était beaucoup de boulot, et ben maintenant ils existent. Donc c'est quelque chose d'important. Alors la logique Shadok, c'est aussi un moyen de dire il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sur des conneries sur des choses intelligentes. Malheureusement, le deuxième est assez répandu par rapport au premier, mais ça me paraît des phrases de toute première force. Montessori, je reviens à Montessori. Je faisais des cours, je leur avais expliqué les images, et je me suis dit, je vais essayer le son. Comment se déplace le son ? Je leur pose comme question. C'est une classe de 6-9 ans. Ils me regardent. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Tout d'un coup, il y a un gamin qui me sort. Le son, c'est pas comme la lumière, ça prend mieux les virages. authentique, hein, je ne peux pas inventer ça. Alors moi, je reste sérieux, parce que c'était moi le prof, normalement, donc je reste un peu sérieux, et je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, bah oui, parce que la classe, par le couloir, la classe d'à côté, on l'entend, mais on ne la voit pas. Ouah. Bon, alors là, les autres, ils ont commencé à le dire que tiens, il va se passer des trucs, c'était une journée intéressante. Et donc, après, on a discuté, je montrais, c'était une vibration, le son, on triche un peu, hein, on sent la vibration, pas vraiment exact, mais c'est pas grave. Et puis, tout d'un coup, il y a Raphaël Pactot, je m'en rappellerai toujours, un gamin très antiscolaire, par ailleurs, qui sort, comme dans Tex Avery, comme dans les dessins animés, deux grands phares de ses yeux, et qui me sort la phrase ultime. Il me dit, le son se déplace en dansant dans l'air. Bon, je pense que c'est la définition de base du son, du déplacement du son. Le son se déplace en dansant dans l'air. Bon, alors ça, c'était pour moi un deuxième gros choc de la journée, mais le troisième, qui était le vrai choc et le vrai intéressant, est arrivé 5 secondes après, où les gamins m'ont dit « C'est super, on a tout compris, reviens la semaine prochaine. » Alors, j'ai expliqué déjà dans ma première leçon inaugurale que je m'inspirais dans tous mes enseignements de cet enseignement-là. Parce que c'est là que j'ai appris à comment on pouvait intéresser les gens à des problèmes qui ne les intéressent pas forcément. Ce qui est vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Alors, sur l'enseignement, je vais vous lire quelque chose d'extraordinaire que j'ai fait lire à moitié par Najat Vallaud-Belkacem au grand amphithéâtre de la Sorbonne quand elle m'a donné la médaille d'or. C'est un poème écrit par la classe de 5e 3 à ma mère, qui était prof de maths, et dont je pense qu'elle était une bonne prof. Le deuxième trimestre est achevé, vite il faut nous en aller. Les vacances vont trop vite passer, le troisième trimestre va commencer. Laissons de côté les carrés, la lune et les nombres premiers, les preuves, la multiplication, l'addition et la soustraction. Les mathématiques avec vous deviennent faciles comme tout. Les dernières difficultés, vite, vite, vont s'envoler. Il est vrai que c'est un plaisir de se souvenir de vous. Vous êtes si gentille que nous vous devrions des billes. Là, c'est une rature, parce que je ne vais pas être très content. Il n'y a pas à en douter, vous êtes la reine des fées, 1000 fois plus gentille qu'elle et encore plus belle. Ne pensons pas aux mathématiques. Organisons des pique-niques. Travailler avec vous, c'est un bonheur auquel on met tout son cœur. Une nouvelle, vous sympathisez. Un problème, vous le résolvez. Il n'y a pas à dire, vous êtes la perle convoitée par tant de merles. Si en colère vous vous mettez, on entend les mouches voler, mais cela n'arrive pas souvent, grand bien pour nous, heureusement. Quel rire vous déclenchez quand tout d'un coup vous vous esclaffez. Ici, tout le monde vous adore et dit que vous êtes en or. Nous espérons ne pas vous charger de soucis et de veillées. Nous vous prions de nous pardonner d'être de tels endiablés. C'est normal à notre âge de ne pas être toujours sage. Nous sommes souvent entêtés, excités et quelquefois déchaînés. Que vous êtes drôle quand vous nous filez les petits trucs du métier avec votre satanée tactique, nous ferons toutes des mathématiques. Dans la classe à la rentrée, d'eux, vous nous parlerez, chacun son tour réussira un petit bout de chocolat. Madame Berry, il faut l'avouer, vous êtes la plus adorée de tous les professeurs du lycée. Oh oh, vous rougissez. Nous espérons toutes vous garder tout au long de notre scolarité. Nous vous oublierons jamais, Madame Berry adorée, signée de l'intégralité de la classe. Alors, je ne suis pas sûr que ça se fasse encore. Mais ça dit quand même quelque chose. Hein. Alors, au collège, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais des poèmes arrivent assez rarement. Et c'est la vie. Alors, par ailleurs, en dehors de tout ça, il y a une charge qui m'a beaucoup plu. C'était évidemment qu'au collège, on discute beaucoup avec les autres profs. On ne va pas assez les voir parce qu'on n'a pas le temps, il y en a trop et ils font trop de choses intéressantes. Et je me suis occupé, bon, pas tout seul, hein, avec un search committee, bon, mais je m'en occupais en gros, je coordonnais la chaire informatique et sciences numériques, qui a eu donc jusqu'à maintenant 10 participants. Rachid Garaoui, qui est ici, est encore en fonction, là, à l'heure actuelle, encore en cours. Et l'année prochaine, on peut annoncer, c'est Walter Fontana, donc professeur de Computational Biology à Harvard, qui va nous parler de Computational Biology. Également de présenter Philippe Manouri, qui est ici et qui nous a fait un cours merveilleux sur la musique. Alors, il se trouve que SRL sert aussi en musique et on a des problèmes en musique d'informatique qui sont très difficiles, en particulier sur la partition. Pourquoi ? Parce que, ben, avec le logiciel, la musique informatique, donc, a un énorme problème. On peut faire tous les sons et tous les arrangements de sons. Mais il y a un truc qu'on ne sait plus du tout faire, c'est une partition. Une partition pour tout faire. Les partitions, ça a été fait pour les instruments. Ça n'a pas été fait pour la liberté la plus totale. Et on ne sait pas comprendre. Alors maintenant, en gros, chaque compositeur invente ses notions de partition. Et il y a eu une belle normalisation de la portée et tout ça. Et puis des notations au travers le temps. Et là, il faut repartir à pas loin de zéro. sur ces problèmes-là, c'est vraiment super intéressant. Et à l'IRCAM, dont je préside le conseil scientifique, c'est un grand honneur. Il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre ça timidement, c'est difficile. Et puis, bien sûr, j'ai eu l'honneur de présenter Stéphane Malat sur la chaire Science des données. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de discuter avec les professeurs. J'aurais aimé voir plus de cours, j'ai essayé d'aller en voir, mais c'est difficile. Les gens me disent des fois, toi, à la retraite, j'y crois pas. Alors moi, j'y crois tout à fait. Et donc, j'ai une nouvelle devise maintenant qui est, j'ai bien assez de cordes à mon arc pour pouvoir changer mon fusil d'épaule, que je trouve une très jolie devise militaire. Et je voudrais, pour finir, je voudrais dire un grand merci à vous, tous les auditeurs qui sont venus et à tous mes séminaristes. Voilà.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter la leçon de clôture de Gérard Berry intitulée « Plaidoyer pour les trajectoires non linéaires ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Gérard Berry. Ces exposés sont accompagnés de supports visuels dont vous retrouverez des extraits et des liens sur nos pages. Un grand merci aux professeurs et aux équipes du Collège de France qui contribuent à cette belle aventure multimédia et un grand merci aux équipes de la documentation de Radio France, en particulier Annie Signoret pour la bibliothèque et Antoine Villoz pour la documentation musicale. Un grand merci à Laure-Hélène Planchet qui a mis en onde avec passion et engagement les cours du Collège de France cette année. Présentation, Meryl Moneghetti. Lundi, c'est la grille d'été. Vous retrouverez les cours du Collège de France le samedi et le dimanche après-midi à 15h. Antoine Compagnon reviendra sur Proust, essayiste, mais aussi philosophe, moraliste, linguiste, esthéticien et peut-être géographe, à voir. Et dans quelques instants, les petits matins, bel été sur France Culture.